France Inter.
Il y a une disponibilité qui est attendue des pompiers volontaires qui est assez colossale. On parle beaucoup du coût physique dont on se doute, mais il y a aussi un coût psychologique dont on parle moins et qui, à mon avis, n'est pas moindre et qui donc fait que les gens peuvent être fatigués physiquement, usés psychologiquement ou fragilisés, donc à certains moments lâcher l'engagement, quoi.
Que se passe-t-il chez les sapeurs-pompiers ? Ils sont 30 000 de moins qu'il y a 30 ans, alors que les interventions, elles, ont considérablement augmenté ces dernières années. Si l'engagement fait toujours rêver et que le métier reste populaire, la profession s'inquiète aujourd'hui d'une possible pénurie de pompiers, notamment chez les volontaires, qui représentent à eux seuls 79% des effectifs. Dans les campagnes ou les petites villes, souvent zones de déserts médicaux, ceux que l'on surnomme les soldats du feu interviennent désormais essentiellement sur des missions qui normalement ne relèvent pas de leurs compétences.
On peut nous appeler pour n'importe quoi, pour un chat coincé dans un arbre, parce qu'une personne qui est tombée en panne avec un fauteuil roulant électrique est tombée en panne sur un trottoir et on nous appelle pour venir dépanner cette personne. De très nombreux pompiers ont suspendu leur engagement parce qu'en fait, il y avait un décalage entre la raison même de leur entrée dans une caserne de pompiers et puis la nature même des missions effectuées.
Le sentiment d'usure grandit chez ces pompiers volontaires pour qui les compensations financières restent bien maigres au regard de leur engagement, notamment face au dérèglement climatique et à la multiplication des catastrophes naturelles auxquelles il est de plus en plus difficile de faire face. Que ce soit dans les Pyrénées-Orientales il y a quelques jours seulement, en Espagne ces dernières semaines ou en Gironde cet hiver, il n'y a plus de trêve dans le combat contre les feux.
On a quelque part, si j'ose dire, une chance en 2022 sur les feux de forêt, que lorsque ça brûlait en Gironde, ça ne brûlait pas dans le sud et ça ne brûlait pas en Corse. Si on avait dû faire face à des feux sur l'ensemble du territoire du sud plus le restant du territoire, on aurait probablement été dans la rupture.
De moins en moins nombreux face à de plus en plus d'incendies, les pompiers sont inquiets et savent qu'il va falloir rapidement trouver de nouvelles recrues, trouver des volontaires qui acceptent de donner des années de leur vie au service de celles des autres. En Saône-et-Loire, où nous commençons notre émission, quand on s'engage chez les pompiers, on le fait en moyenne pour 13 années, soit un peu plus qu'au niveau national. Et ici comme ailleurs, les troupes s'amaigrissent. Coup de pompe chez les pompiers volontaires, c'est un reportage de Vanessa Descouroux.
Interception, le magazine de reportage de la rédaction de France Inter.
Bonsoir messieurs.
C'est deux chefs d'équipe.
Bonjour.
Bonjour. Bonjour. Nous sommes à Saint-Jean-Goux-le-National. C'est un village bourguignon qui est d'ailleurs construit sur un coteau. Il y a ici 1050 habitants, une gendarmerie, une caserne de pompiers, avec un effectif de 28 pompiers, dont 9 femmes. Mais c'est très très loin d'être suffisant pour assurer des interventions 24 heures sur 24.
Qu'est-ce qu'on a pris ? Le collier.
Vous en avez un petit coup de vent ?
C'est l'équipe qui est de garde cette nuit, qui prépare le matériel dans le véhicule d'intervention au cas où. La caserne ici est composée à 100% de pompiers volontaires. Il y a sur la commune environ 400 interventions par an, soit plus d'une par jour en moyenne. Vous pouvez m'expliquer un petit peu le rythme de garde, d'astreinte de garde, c'est quoi ?
C'est une astreinte. On en fait deux dans la semaine par équipe. Donc on est quatre équipes de 5-6 en moyenne. Et donc on est une semaine de garde sur quatre du coup.
Une sur quatre.
Ouais, comme on est quatre équipes. Donc,
donc on est du vendredi 19h au vendredi d'après 19h. Donc le week-end, tout le monde est là parce que personne ne travaille. Et après la semaine, il y a les gens qui travaillent. Donc la journée, c'est ceux qui travaillent à la commune ou ceux qui sont disponibles. Mais par contre, la nuit, ceux qui sont de garde sont de garde la nuit. Et c'est eux qui programment leurs horaires.
Par exemple, vous, là, pour cette nuit, c'est quelle heure ?
Jusqu'à 4h du matin.
Et là, qu'est-ce que vous venez faire à la caserne ?
Là, c'est une astreinte, c'est-à-dire qu'on fait entretien de la caserne, de désinfection de l'ambulance, on fait des...
Et un peu de formation. De la formation, ouais.
Et quand vous rentrez à la maison, vous avez un téléphone, un beeper particulier ?
Un
beep. Là, qui est à la hanche.
Je vais vous le faire un peu, déclencher, vous savoir ce que ça fait.
Avec le nom, la date, l'heure, il va le déclencher pour vous montrer un peu
le son, du beep,
le son qui sort...
Le son qui peut vous réveiller parfois, oui. Donc il doit être un peu...
C'est un peu puissant.
Un peu costaud, ouais. Je baisse le volume d'ores et déjà.
Oui.
Il vous inspire quoi, ce son ?
C'est une montée d'adrénaline, on va dire. Forcément, à chaque fois.
Je me présente, capitaine Verdeau, Pascal Verdeau. Je suis chef de centre, donc du centre d'incendie et de secours de Saint-Jean-Goux-le-National. Donc, nous sommes situés au centre de la Saône-et-Loire. Nous avons actuellement 24 communes sur notre secteur, qui représentent environ 5000 habitants. Pour ma part, je suis artisan plombier, donc je suis sapeur-pompier volontaire. Et dans la même partie, je fais artisan plombier.
24 communes sur lesquelles vous intervenez, vous l'avez dit, ça fait un bassin de population de 5000 personnes et vous êtes 28 pompiers pour ça.
Actuellement, on tourne à 4 équipes, donc ça revient assez souvent en soi, le tour d'équipe. Ce qui serait bien, c'est qu'on ait une trentaine de personnes, donc on est toujours dans la phase recrutement. Dernièrement, on a recruté 3 personnes, dont une femme, une jeune femme de 18 ans. On est toujours dans cette phase, il faut qu'on recrute. On a été voir les mairies, on a été voir différentes personnes, des collectivités. Il faut qu'on retrouve du monde pour assurer nos arrières aussi, parce qu'on vieillissant ainsi de suite, donc il faut se remplacer. Le temps de former du monde, c'est assez long.
Quelles sont les conséquences d'avoir un effectif aussi réduit ?
En journée, on a un travail. Certains ont un travail qui se déporte assez loin dans les grandes villes. Donc on a un effectif réduit, on arrive à 4-5 personnes en journée, ce qui est juste limite. On assure un ambulance, c'est-à-dire avec un équipage de 3 personnes. Donc avec cela, on peut partir. Et si on ne part pas, c'est-à-dire qu'on intervient avec les centres voisins qui viennent nous seconder pour faire l'intervention.
Donc ça vous arrive de refuser des interventions ?
Effectivement, on arrive à des jours où on a eu 0 pompier à la caserne. Donc là, c'est un délai supplémentaire pour l'intervention. De 5 à 10 minutes supplémentaires par rapport à nous. Quoi. On a du mal à trouver des pompiers en journée.
Parce qu'ils ne travaillent pas ici, pas dans le secteur ?
Effectivement, à plus de 8 km. Et voilà, aujourd'hui, on est coincé.
Quand vous dites 8 km, c'est parce qu'il ne faut pas travailler au-delà pour rejoindre une caserne en cas d'appel ?
Effectivement, pour que le bip fonctionne, il faut que les pompiers soient disponibles dans ce rayon.
Ça fait combien de temps que vous êtes engagé, vous, monsieur ?
28 ans.
Est-ce que ça a toujours été comme ça ?
Non, effectivement. Surtout, je dirais, un gros impact depuis l'époque Covid. On a eu aussi quand même pas mal de soucis là-dessus. Des pompiers qui ont été non vaccinés. Donc le gros impact était là. J'en ai eu 11 au départ. Et après, certains sont revenus, qui ont été vaccinés. Et d'autres ont démissionné. D'autres sont toujours inaptes. Donc on a eu un gros impact au niveau de la caserne, là aussi. On a différentes casernes, celle-ci est assez récente, les années 80-90. On est quand même bien lotis et puis on a ce qu'il faut.
Vous avez de l'espace.
Là-dessus, oui. Après, on a de plus en plus de femmes, donc c'est les locaux qui ne sont pas adaptés en fonction des femmes. Donc manque de place à ce niveau-là. Le département est au courant, voilà, ils vont mettre des choses en place. Mais c'est...
Donc il y a des travaux à venir pour agrandir le vestiaire femme et peut-être réduire le vestiaire homme.
Vous avez tout compris.
Vous m'envoyez bien heureuse.
Il faut quand même des vestiaires pour tout le monde, en soi. Donc, alors je vois qu'ils sont partis, donc ils ont dû faire... Ils sont derrière, je pense.
Ah, voilà. Bonjour monsieur, c'est pour vous. Bonjour monsieur.
Ah, ok.
Compresse, tension tout de suite. Comme ça, si la tension elle baisse, on peut relever les jambes.
Bah, je bricolais et je me suis coupé avec la. Vous avez perdu connaissance ou
quoi? Bah non, mais ça peut-être pas tarder là.
Vous sentez pas bien du tout?
Donc l'appareil qui sonne tout le temps comme ça, c'est pour prendre la saturation, c'est-à-dire le taux d'oxygène dans le sang, et pour prendre le pouls.
Donc là, l'équipe est au complet ce soir. Et comme il y a un stagiaire, ils en profitent pour faire des séquences de formation. Et là, ils sont en train d'imaginer un scénario avec une fausse victime, qui est un des leurs, évidemment, allongé, avec du ketchup sur le bras déposé par le chef d'équipe, une scie à côté de lui, donc c'est un homme qui a bricolé chez lui et qui s'est coupé, qui ne sent pas bien.
Ça marche. Allez, attention. 99 de sat, 73 de pouls. De 0 à 10, vous avez mal comment, monsieur? 0, pas mal du tout, 10, c'est insupportable. 8. Quand vous ne bougez pas, ou quand vous bougez?
Les deux.
Tiens, on va le faire sur celui-là, le dextro. Il viendra là de ce côté-là.
Le dextro?
Pas de nausée, pour monsieur?
Le diabète.
Pour le diabète, ah oui.
Ne okay. Pas, monsieur.
La glycémie, oui.
Tu l'as déjà fait, hein?
Oui. Ouais.
Vous avez quelques minutes, Nicolas, à
oui,
m'accorder
oui.
Vous êtes stagiaire, c'est ça?
C'est ça, oui, tout à fait. Ouais.
Donc pour vous, pas d'intervention encore en camion. Pourquoi tout simplement vous avez décidé de vous engager?
Bah justement, dans la commune de Saint-Boil, on a des personnes pour le calendrier qui sont venues plusieurs années de suite me demander si j'étais intéressé. Donc j'avais un métier à un moment donné de ma vie qui n'était pas facile en termes d'horaire. Puis j'avais une famille aussi, j'ai 3 enfants à la maison. Donc je
voulais. Vous êtes aide-soignant?
Bah, à l'époque, j'étais responsable logistique. Voilà. Je ne connaissais pas du tout le monde des pompiers. J'ai décidé de passer le pas, en discussion avec ma famille, surtout ma femme. Et puis bon, voilà, maintenant, nouveau engagé.
Votre engagement est récent, mais qu'est-ce qui vous plaît déjà?
Ouais, c'est l'esprit d'équipe déjà, qui est bien présent dans le corps des pompiers. Puis bah, c'est être utile à ses prochains, quoi. C'est d'être, voilà, de pouvoir aider les personnes. C'est de se sentir utile, quoi.
C'est pas un engagement personnel, c'est quasiment un engagement familial.
C'est ça, oui, tout à fait.
Puisque c'est une semaine sur quatre hein, de garde, d'astreinte, donc c'est lourd, c'est aussi des vacances qui sont consacrées à la cause, etc. Donc, comment ça se plaide, ce genre d'engagement?
Ouais, ça s'est discuté naturellement avec Émilie, ma femme. On se rend pas bien compte, de toute façon. On sait qu'il va falloir y aller, on sait qu'on aura, quoi, je vais avoir une semaine d'astreinte. Après, ça reste la semaine. On a quand même notre vie professionnelle à haute, donc c'est la nuit. Puis après, bon, bah, le week-end, on s'arrangera, mais ça en tout cas, je sais pas si ça se plaide, mais ça se discute, ça c'est sûr. Quoi, il faut que la personne en face nous accompagne. On peut pas faire ça tout seul, quoi, ça c'est sûr. Donc pour le moment, ça passe. Après, avec les enfants, ça y a pas de souci. Du moment qu'on sort les camions de pompiers, la tenue, ça c'est bon.
Ça marche encore.
Ça marche bien, ça.
Allez, on va voir le directeur du 10-71 dans son bureau. C'est le bureau du colonel Frédéric Pignot.
Allez-y, je vous laisse. Hein? C'est OK? Bon.
Colonel Frédéric Pignot, je suis le directeur départemental des services d'incendie de secours de Saône-et-Loire.
On a déjà parlé dans ce reportage des problèmes d'effectifs, des difficultés à recruter. Mais il y a une autre difficulté qui se présente à vous, c'est le nombre d'interventions qui explose, multiplié par 2 en 20 ans. Qu'est-ce qui s'est passé et comment tenter de réguler ça?
Oui, effectivement, ici en Saône-et-Loire, en 2000, nous effectuons 20 000 interventions par an à cette époque-là. 20 ans plus tard, en 2020, c'est 40 000 interventions. Et quand on regarde le détail de ces interventions, c'est le secours à personne, en fait, qui a explosé, puisqu'on a doublé le nombre d'interventions pour secours à personne, ou je dirais plutôt d'assistance à personne. Il y a plusieurs facteurs qui sont responsables de cette explosion. Il y a, bien évidemment, le vieillissement de la population. C'est le fait que les personnes âgées sont plutôt hospitalisées à domicile plutôt qu'à l'hôpital. C'est les difficultés à recruter des médecins, à avoir des médecins de famille. C'est également d'autres services comme les ambulanciers privés qui se sont recentrés sur des missions programmées à l'avance mais qui ne prennent pas en charge toutes ces missions de prise en charge et de transport de personnes blessées ou malades à domicile et qui fait que il y a eu un transfert en fait de charge sur les SDIS. Et pourquoi les SDIS? Parce que les SDIS ont un maillage territorial le plus fin de n'importe quel service public en dehors bien évidemment des communes, mais les sapeurs-pompiers, bien plus que les gendarmes, sont bien plus présents sur le territoire, ce qui fait que c'est les pompiers que l'on appelle quand on a un souci sur, à domicile ou sur la voie publique.
Dans tous les 10 de France, il y en a un dans chaque département, le service départemental incendie et secours est là pour assurer la sécurité civile de l'ensemble de nos populations et de nos territoires.
Qu'on appelle pour tout et n'importe quoi, si je résume, parce que vous êtes partout, gratuit et que vous dites jamais non, c'est ça ?
Oui, c'est presque oui, c'est une
sommaire,
bonne,
mais...
c'est sommaire, mais vous avez raison, c'est on peut nous appeler pour n'importe quoi, pour un chat coincé dans un arbre, parce que une personne qui est tombée en panne avec un fauteuil roulant électrique est tombée en panne sur un trottoir et on nous appelle pour venir dépanner cette personne. Voilà, c'est notre quotidien et aujourd'hui, on a entamé ici en Saône-et-Loire un travail de meilleur partenariat avec le service d'aide médicale urgente, avec le SAMU 71, pour justement que le SDIS puisse se recentrer sur ses missions principales et de travailler en partenariat avec les ambulanciers privés pour pouvoir mieux se répartir la charge opérationnelle et de faire en sorte que les pompiers se consacrent à l'urgence, aux missions régaliennes, la lutte contre l'incendie, les accidents de la route, l'arrêt cardiaque, l'hémorragie grave, et que les ambulanciers privés puissent intervenir dans leur champ de compétences. Et nous ne sommes pas en fait des transporteurs, nous ne sommes pas des assistants sociaux. Et ça passe forcément par le sens de l'engagement. Si ces pompiers volontaires ont tapé à la porte d'une caserne pour s'engager, ils ont tapé à la porte pour s'engager pour des missions d'urgence. Et de très nombreux pompiers ont suspendu leur engagement parce qu'en fait, il y avait un décalage entre la raison même de leur entrée dans une caserne de pompiers et puis la nature même des missions effectuées.
Bah tiens, regarde celui-là, là. On l'a fait la semaine dernière, on l'a fait hier, encore une fois. Non, hier. Oui, hier. Le mec, il s'était ouvert les veines depuis la veille. Ouais. Et on l'avait déjà fait la semaine d'avant, quoi. Ouais. Et on fait, ouais, que ça, quoi. En ce moment, on fait beaucoup de tests, en ce moment. Ouais. Ouais.
On quitte les casernes de Saône-et-Loire quelques instants et nous allons à Paris. On va rencontrer un chercheur, Romain Pudal. Il est sociologue, il est chargé de recherche au CNRS. Il a été pompier volontaire lui-même une quinzaine d'années en région parisienne. Et on va voir avec lui pourquoi, particulièrement en France, pourquoi la part de pompiers volontaires est aussi importante dans le dispositif de protection civile.
Alors c'est un modèle fort dans le sens où, puisque c'est un service public, le fait qu'il y ait du volontariat, ça permet d'avoir un maillage territorial, comme on dit, très important, une réactivité partout, tout le temps, en tout lieu. Maintenant, c'est un modèle fragile parce que effectivement, le volontariat, ça veut aussi dire que ce sont des gens qui travaillent, qui font leurs études ou qui ont leur vie de famille tout simplement et qui doivent abandonner régulièrement tout ça pour aller assurer des missions de secours. Donc il y a une disponibilité attendue des pompiers volontaires qui est assez colossale. Et puis une chose qu'on voit évidemment moins, c'est la capacité à encaisser des choses, des situations qui sont très dures. On parle beaucoup du coût physique dont on se doute, mais il y a aussi un coût psychologique dont on parle moins et qui à mon avis est pas moindre et qui donc fait que les gens peuvent être fatigués physiquement, usés psychologiquement, ou fragilisés, donc à certains moments lâcher l'engagement, quoi.
Mais quel est l'intérêt de s'appuyer autant sur les volontaires, l'intérêt pour l'État ?
Ça coûte pas cher. Déjà, commençons par le commencement. Un volontaire, ça coûte pas cher. C'est quelques euros de l'heure.
Entre 8 et 12 euros de l'heure selon le grade, c'est ça ?
Alors, selon le grade... c'est un système assez complexe parce qu'il y a à la fois l'État et puis les départements. Les départements peuvent avoir des modalités de financement de leurs volontaires un peu variées. Certains payent l'intégralité de la garde, c'est-à-dire vous faites 100 euros pour vos 24 heures de garde, quoi qu'il arrive. D'autres vont payer en fonction du nombre d'interventions que vous faites, si les interventions sont en journée, si les interventions sont en nuit.
Donc c'est de la main-d'œuvre pas chère, les volontaires.
Ouais, pas cher, il y en a partout. C'est un bel engagement, il n'y a pas de doute là-dessus, c'est un beau métier. C'est difficile de trouver quelque chose où on se sente plus utile, quand même. Mais en même temps, la disponibilité que ça implique et puis le coût psychologique ou physique. Pour les gens qui sont d'astreinte, ça veut quand même dire d'être à moins de 10 minutes de sa caserne tout le temps. Ça veut dire qu'il y a des repas où vous n'allez pas, des fêtes où bah, vous dites « ouais, mais pas plus loin qu'eux », ou etc. Enfin, c'est quand même quelque chose qui est constamment dans l'esprit. On a souvent une reconnaissance de la population, ça c'est pas faux. Mais bon, pour avoir eu aussi des discussions un peu plus informelles avec des officiers de RH et tout ça, qui disent « bon, mais on le sait bien, on a des petits jeunes qui n'ont pas d'argent, pas de boulot ». Il suffit de les appeler et leur dire « Est-ce que tu veux gagner 100 balles en faisant la garde de tel jour ?» Et ben, ils disent oui, et ils viennent.
Ce que vous décrivez ressemble quand même à un modèle qui est en train de craquer.
Moi, je pense qu'il tient, pour ce que j'en vois, sur un dévouement incroyable de ceux qui sont encore dedans.
Donc
c'est fragile. Voilà. Là aussi, on ne peut pas indéfiniment compter sur la bonne volonté des fameux volontaires ou se dire qu'on va augmenter le nombre d'heures ou qu'on va, etc. Parce qu'à la fin, les gens craquent. Très concrètement, j'ai discuté aussi avec un volontaire qui me disait bah, « Quand je suis rentré il y a 25 ans, donc c'était un ancien, il me dit bah, « Quand je faisais ma nuit de garde, je sortais une fois. Maintenant, je sors quatre fois dans la nuit. Mais je ne peux pas aller bosser le lendemain. » Voilà, je suis claqué en fait. En fait, j'ai plus envie. Et ça n'était pas comme ça. Et pourquoi c'est devenu comme ça? Parce que du point de vue algorithmique, on va dire, ça marche. Hein. Effectivement, il peut encaisser les quatre interventions, il les fait. Sauf que l'effet que ça a produit sur lui, c'est que finalement, il va arrêter après 25 ans ou 27 ans d'engagement. C'est quand même. Est-ce que c'est un bon calcul de perdre des gens avec de l'expérience parce que ils en peuvent plus, ils sont pressurisés, ils sont épuisés. Je suis pas sûr que ce soit un très bon calcul et qu'on se dise. On va attirer des petits jeunes. Le problème des petits jeunes, c'est que ils n'ont pas l'expérience. 5 ans, c'est ce qu'il faut pour faire un bon pompier de terrain, on va dire. Et au bout de 5 ans, vous perdez la moitié de vos effectifs parce que fatigue, trop de dispo, trop de machin, etc. Donc il y a un problème, quoi.
En Saône-et-Loire, le nouveau partenariat départemental conclu avec le SAMU a permis de baisser le nombre d'interventions pour secours à la personne de 12% en un an. L'objectif, à terme, permettre aux pompiers de se consacrer aux seules missions d'urgence. Un retour au cœur du métier qui convient aux pompiers des 60 casernes que compte le département. Parmi elles, 9 sont dites mixtes, c'est-à-dire qu'on y trouve à la fois des pompiers volontaires et des pompiers professionnels. C'est le cas de celle de Mâcon, où l'on retrouve Vanessa Descoureaux. Ce jour-là, en pleine semaine et aux heures de bureau, elle n'y rencontre que des professionnels prêts à partir en mission.
Interception sur France Inter.
Il y a les deux ambulances au CH, il y a pas mal d'attente. Du coup, on a préparé le SAV3 avec des gars du fourgon. Je crois qu'il y a Mimi... Cyril et je sais plus qui. Voilà, vous inquiétez pas si c'est vous qui êtes au départ. C'est bon ? Ouais, c'est pour ça. En fait, quand ils rentrent, on les passe en noir. Comme ça, ils ont le temps de manger et le 3 qui part. Et là, bon, ça doit faire un petit moment qu'ils sont à l'hôpital. Ok, allez, c'est bon. Bon après-midi, les gars, à toutes.
C'est toi avec moi ?
C'est un chien qui est blessé sans propriétaire identifié sur place en fait.
Ça vous met en joie ?
Oh, c'est un boulot, c'est une mission comme les autres.
Ouais.
Alors les pompiers équipent le camion avec lequel on devrait partir et notamment ils prennent des cages dans lesquelles ils planifient de mettre ce chien. J'y vais.
Ouais. 56.
C'est la résidence de la commande.
Et là, qu'est-ce qu'on sait de cette intervention?
Eh bien, ce qu'on sait, c'est qu'on a un chien blessé à la patte arrière dans une résidence. Et qu'il n'y a pas de propriétaire identifié sur place. Sauvetage d'animal, ça fait partie de nos missions. Si le propriétaire est absent.
Il y a
Il y a un comité d'accueil, la dame qui vous a appelé visiblement.
Bonjour madame. D'accord. Ok.
Après régulation, aucun transport,
c'est interdit. Quoi, Vous l'avez déjà vu ce chien?
Jamais.
Jamais.
C'est la maman qui l'a repéré.
D'accord. Et il est blessé à la patte?
C'est une femelle et elle a la patte arrière droite qui visiblement lui fait mal. Elle est gentille comme tout.
On lui a donné à boire, ça l'a requinqué un peu.
Barrer la cage.
Elle a l'air bien soignée, bien propre. Moi, j'y connais rien en chien. Mais...
Pas de médaille, il n'y a rien sur le collier.
Non, j'ai regardé dans le collier, ouais. J'ai regardé à l'envers du collier, j'ai rien vu.
Tatouée, non, elle est vieille, non
prendre... Alors peut-être.
Elle est peut-être cuissée, non.
Vous tenez le collier.
Ouais.
Allez, viens là. Hop, allez.
Attention dans la défense.
Ça va, monsieur?
Ouais, ça va. Je me ferai l'arrêt après.
Comment?
Il ne va pas te casser la
tête. Ça fait dommage qu'on est dans une ambulance.
Il a été écrit en photo dans tous les sens.
Il n'arrivait plus.
Ma fille, je crois bien qu'elle va venir en photo sur ma
tête. Karine, salut, c'est Fab. VTU en Mâcon. Ça va? Tu peux me repasser JD? Ouais, ça va, merci. Tu peux me repasser JD, s'il te plaît? Allô? Ouais. C'est une femelle. La race.
C'est un mélange de malinois et de berger
allemand. C'est un mélange entre un malinois et.
Et berger allemand.
Et un berger allemand.
Petite.
Mais de petite taille, tu vois.
Ouais,
enfin,
elle est fine,
ouais, assez
mais c'est
fine.
Pas vraiment malinois.
Pas agressif du tout. Elle n'utilise pas du tout la patte arrière droite.
Ouais, c'est pas...
Ah non, du tout, ouais. Du tout. Hein.
Alors moi je suis l'adjudant Fabien Redon, donc j'ai la fonction de sous-officier de garde au centre de secours de Mâcon.
En attendant la fin de cette intervention, un petit mot quand même sur votre travail, votre collaboration avec vos collègues volontaires. Est-ce que vous ressentez sur le terrain, vous les pompiers professionnels, ce problème de recrutement? Est-ce qu'il y a un impact pour vous?
Alors nous l'impact on le ressent, on va dire, quotidiennement dans les secteurs avoisinant en fait le nôtre, aux alentours de Mâcon, puisqu'on est de plus en plus sollicité pour intervenir sur les secteurs des centres d'intervention volontaire, qui eux n'arrivent pas à assurer leurs sollicitations quotidiennes. Je m'excuse.
Travail d'abord.
Oui, allô. Oui, d'accord. Allez, ça marche, merci, à tout de suite.
Ils ont trouvé l'association, on va pouvoir ramener le chien à la caserne, et l'association va venir chercher à la caserne. On me confirme juste dans une minute que je me mette en relation avec les services techniques de la ville, et voilà.
Alors j'en profite, je prends la minute pour poursuivre cette interview. En gros, ça veut dire que faute de volontaires autour de la ville de Mâcon, c'est vous qui devez intervenir, alors que c'est pas votre périmètre d'action normalement.
C'est ça, voilà, c'est pas notre secteur de premier appel. Et faute de volontaires, les engins des centres, des secteurs alentours à la ville de Mâcon peuvent pas partir en intervention. Et du coup, c'est nous qui devons couvrir en fait ces interventions-là avec des temps et des délais de réponse qui sont allongés. On a une permanence opérationnelle journalière qui est à 14 pompiers. Et bah, sur les 14, si on en a 3 qui partent sur des secteurs aux alentours, 3 à 6, bah, c'est la garde de Mâcon qui est diminuée.
C'est récent ça?
Ouais, on y voit depuis 3-4 ans. 3-4 ans, mais ça s'intensifie et on est amené à intervenir de plus en plus loin de notre secteur de premier appel. Ouais.
Ça a quelles conséquences ça?
Bah, ça a la conséquence de délais rallongés pour les victimes, pour les interventions. En cas d'incendie, un fourgon qui part de Mâcon, qui met 30 minutes à la place de 10 minutes d'un fourgon local, bah, je vous laisse imaginer les conséquences sur un feu de structure. Et malheureusement, en fait, la tendance ne fait que s'accentuer.
En Saône-et-Loire, 700 agents sont mobilisés, le week-end et la nuit. En journée, ils sont 250 seulement.
Clem? Ouais, gros, je suis en VTU sur un sauvetage d'animal. Et c'est une assoce qui va venir le récupérer d'ici 45 minutes à peu près. C'est bon pour toi, gros? Allez, à tout de suite.
Nous sommes désormais aux côtés du capitaine Philippe Mauchamp. Vous êtes officier référent du volontariat auprès du directeur du SDIS ici en Saône-et-Loire. Ça veut dire que c'est vous qui essayez de convaincre les entreprises de libérer des pompiers volontaires. Quel est votre rôle exactement?
L'idée principale, c'est d'organiser cette absence éventuelle en faisant des plannings, en instaurant des horaires bien précis et en mettant des conditions partagées par l'entreprise, par le salarié et par le service départemental.
Par exemple, comment ça marche? Je suis salarié d'une entreprise, je préviens mon patron en disant « Bon, voilà, jeudi prochain, de 9h à midi, je me suis mis mobilisable par les pompiers. » Concrètement, comment ça marche?
C'est plus général. Je pense qu'on fait un planning à l'année.
D'accord.
On fait un planning à l'année. Parce qu'en fin de compte, les sapeurs-pompiers, dans nos fonctionnements au niveau du département, on monte des semaines d'astreinte. Donc en général, dans nos centres de secours, on a à peu près 4 équipes, donc c'est une semaine par mois. C'est ces semaines où le sapeur-pompier qui est de garde dans son centre le signale à son patron et éventuellement donc peut être déclenché sur cette semaine du mois.
Ça veut dire, la semaine en question, je suis au travail, bim, ça bip. Je dis tout de suite à mon employeur, je dois partir, je file, ou mon employeur a encore la marge de manœuvre, dire non, pas maintenant, là c'est très important ce qui nous attend. Comment ça marche ?
Il a toujours la marge de manœuvre. L'activité professionnelle de l'entreprise passera toujours, malheureusement, avant de libérer l'agent. Mais dans la logique, il y a une certaine organisation dans l'entreprise qui fait que cette semaine-là, il est censé quand même libérer le maximum en fonction de la sollicitation.
Mais qu'est-ce qu'elles ont y gagné, les entreprises? Financièrement, elles gagnent des choses?
Alors, financièrement, très peu de choses. Il n'y a plusieurs...
pas d'exonération, de cotisation?
Si, il y a des exonérations.
En fait.
Oui, c'est un petit si parce que l'État a mis certaines choses en place, mais pour moi, c'est une lourdeur de suivi. On va parler d'exonération de charges sociales sur le temps où il a libéré son agent. On va parler éventuellement de baisse de cotisation d'assurance. Là, c'est encore plus, c'est l'État qui avait proposé ça, mais c'est des entreprises privées d'assurance, donc ça marche très peu. Après, il y a le mécénat. Le mécénat a cet avantage également du coût de l'absence du sapeur-pompier sur une année peut faire l'objet d'à peu près 60% de baisse d'impôt au même titre qu'un don, que n'importe quel don.
Dans le monde du travail, il y a un élément qui a considérablement changé ces derniers temps, c'est le télétravail. Est-ce que pour vous, c'est quelque chose qui peut être intéressant justement pour avoir plus de volontaires?
Dans la convention, on a rajouté cette case télétravail. Il y a quand même beaucoup de gens qui font du télétravail. L'idée, c'était que l'employeur accepte pendant cette phase de télétravail que le sapeur-pompier puisse partir soit de chez lui. On va même plus loin. On aimerait que le sapeur-pompier fasse son télétravail à la caserne pour être considéré aide d'astreinte, prêt à partir. Après, voilà, c'est des discussions entre l'employeur et le salarié. Il faut que le salarié également accepte ce mode de fonctionnement.
On va à la pharmacie?
Oui.
Donc c'est là où je travaille, hein. Tout ce qu'on trouve ici, c'est ce qu'on utilise le plus, hein. Il y a des compresses, des champs, des pansements absorbants, des pansements compressifs. Il y a les VSAV aussi, les infirmiers aussi. On réapprovisionne les sacs des infirmiers. Alors moi, je m'appelle Sandrine Galbès, j'ai 49 ans, j'ai deux enfants. J'ai été recrutée, moi, en tant que préparatrice en pharmacie en octobre 2020. Donc je suis au service des pompiers. C'est moi qui réarme leur centre.
Et votre engagement donc remonte à octobre 2020, pour quelle raison?
Alors, c'est une petite graine qui a germé. Ce qui a été vraiment révélateur, ça a été c'était les campagnes de vaccination. C'est un grand engagement où je
contre
me suis
le Covid.
Contre la Covid, voilà, où j'ai pas mal participé. Et cet engagement, cette solidarité, ça m'a vraiment donné l'envie.
Alors, Sandrine Galbès, vous êtes donc préparatrice en pharmacie ici à l'état-major à Mâcon, mais vous l'êtes aussi dans la vie civile, vous êtes préparatrice en pharmacie.
Oui.
Comment ça s'est passé avec la pharmacienne quand vous lui avez expliqué que vous souhaitiez donner du temps aux pompiers du 71?
Avant même que je m'engage, je lui en ai parlé. Ça a été la première où je lui dis, le monde des pompiers, ça me plaît, être dans l'action, Donc ça a été la première où j'ai dit voilà, je ressens, j'ai l'envie de. Donc tout de suite elle m'a dit écoute, je vais t'emmener, on va se renseigner au service volontariat et tu vas poser tes questions. Et moi la seule crainte que j'avais pour l'engagement, c'était surtout au niveau par rapport à l'activité physique.
Voilà, serais-je capable?
Serais-je capable? Je n'ai pas la force d'un homme. Donc c'est vrai qu'on, c'est quand même un métier qu'on dit, un métier dit d'homme. Donc moi c'est la crainte que j'avais. Je me dis est-ce que je suis capable physiquement de le faire. Et puis en fait, je me suis très très vite aperçue, justement, quand j'ai fait ma journée d'immersion, là j'ai vu la complémentarité qu'on avait. Lors des interventions, on ne voit pas les mêmes choses, on ne vit pas les mêmes choses, on n'aborde pas les gens de la même manière. Et en fait, on a une vraie complémentarité.
La formation, c'est une soixantaine de jours étalés sur 3 ans. Donc on va dire que c'est 20 jours par an consacrés aux pompiers, à la formation et pas au temps libre, pas à la famille, pas aux vacances. Ça a été facile, difficile à inscrire dans votre projet de vie ?
Moi, très facile. Après, bon, je pense que ça, c'est vraiment très personnel. À partir du moment où je me suis engagée, moi, je suis quelqu'un qui jamais dans l'action. Voilà. Donc, ma formation, je ne veux pas qu'elle dure 3 ans. Donc, moi, j'ai un petit peu enchaîné mes formations. Aujourd'hui, je suis équipier secours à la personne. Je viens de finir ma formation d'incendie. Donc là, depuis le mois de mars, j'ai été validée équipier incendie. Au mois d'avril, je termine ma formation par l'opération diverse. Donc, au mois d'avril, j'ai fini ma formation.
Vous voilà. Êtes tout terrain.
Je suis tout terrain, voilà.
Nous avons embarqué dans une ambulance qui a été appelée sur un accident de scooter. Et là, nous, on est seuls à l'arrière, à côté du brancard et de tout le matériel qui sera certainement utilisé quand on sera arrivé aux côtés de cette victime. Voilà, on approche. Il y a des gens sur le trottoir qui font signe pour montrer que c'est bien ici. Il y a une personne au sol.
T'as pas mal au cou ? T'as pas mal au dos ? Non ? Ok, on l'enlève tranquillement. Tu dis, s'il y a quoi que ce soit qui te fait mal, tu le dis. Ok ? Là, ta douleur, elle se situe au niveau du pied uniquement ? C'est ça ? D'accord. On va faire, Steve, on va essayer de se lever, ok ? Puis on va aller se mettre dans le camion, d'accord ? Puis on va regarder tout ça de plus près. Ça marche ? On t'aide ?
Tu plies la jambe là, voilà, et tu prends appui dessus, d'accord ?
Tu me dis si je te fais mal, hein ?
Ouais, voilà. Super.
Là, on est monté à l'intérieur du camion.
Ok.
Et le jeune homme, Steve, est sur le brancard.
Donc on a une petite brûlure superficielle.
Ouais. La saturation à 96%.
Tu sais, t'as combien de tension d'habitude ?
Coup 85, régulier, bien frappé.
Et la fatigue, t'étais déjà fatigué avant ou c'est après la chute que t'es fatigué comme ça ?
Je suis tout le temps un peu fatigué avec le stage.
T'as de fatigue ? Ok, ça marche. Bon, il y a plus de peur que de mal là.
J'espère, je pense.
Mais oui. Mais toi, mec, tout va bien. Donc ce qui est important, tu sais ce qui est important en fait, rien. Là, tu peux me bouger les doigts de pied, les deux côtés. D'accord. Là, tu peux me serrer les mains. Donc ça veut dire que tu me comprends. Si tu me comprends déjà, c'est très positif. D'accord. Au niveau de la ventilation, t'as pas mal. Tu vois, t'arrives à respirer correctement. Ok. Quand j'ai pris la tension artérielle, en fait, on est sur 120 sur 60. C'est une très bonne tension. Ok. Là, quand je prends ton pouls, il est régulier, bien frappé. Ok. Donc là, en fait, là, c'est bien. On n'a pas d'atteinte au niveau des organes vitaux. Ok, c'est bon pour toi ?
C'est
bon. Tu vois, t'arrives à me comprendre, t'arrives à me parler. Voilà, donc là, c'est de l'émotionnel. T'as juste eu peur. C'est une petite douleur, une toute petite brûlure.
Oui.
Ça marche ?
C'est bon.
C'est rassurant ? Bon. Si jamais ça va pas, si t'as envie de parler, si t'as envie de quoi que ce soit, tu me le dis. Ok ?
Je peux remettre ma chaussure ?
Ah, bien sûr. Si tu veux la remettre, on va la remettre.
Après les violents incendies qui ont secoué la Gironde, la Bretagne ou le Jura l'année dernière, et les Pyrénées-Orientales il y a quelques jours à peine, les pompiers s'attendent à un nouvel été compliqué. D'autant que les très faibles précipitations de cet hiver font craindre une sécheresse inédite qui n'épargne plus personne.
D'abord ces images donc pour le moins étonnantes, on vient de vous le dire en titre, la forêt de Gironde brûlante en plein hiver.
Cerbère s'est réveillé dans les cendres ce lundi.
Du nord au sud, d'est en ouest, il ne se passe pas une journée.
3 fois plus que l'année dernière.
Sans que les pompiers ne soient appelés sur un feu.
Des feux également dans la Drôme, l'Isère, mais aussi, vous l'avez dit, sur la partie nord.
Aucune région n'était épargnée.
En Saône-et-Loire, il y a 10 ans, on comptait ainsi moins d'une centaine d'interventions sur des feux de forêt. En 2021, c'était 842.
Aujourd'hui, là, au mois de mars 2023, nous sommes déjà à 10 000 hectares de feux de forêt.
Et il n'y a pas que les feux, il y a désormais des crues, des averses de grêle ou des tempêtes de plus en plus violentes. Et là encore, ce sont les pompiers qui sont en première ligne. Comment faire face à ce dérèglement climatique? Avant de retourner en Bourgogne, Vanessa Descoureaux est allée poser la question à la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, dont le siège est installé à Paris. Elle est accueillie par le président de la fédération, le lieutenant-colonel Jean-Paul Vosselan, qui est, et c'est une première, pompier volontaire.
L'objectif que vous avez ici à la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, c'est donc d'augmenter, de recruter 50 000 pompiers volontaires en plus et un petit peu moins de 10 000 professionnels en plus d'ici 5 ans. Sinon, quoi? Si ça marche pas, ça veut dire quoi?
On a quelque part, si j'ose dire, une chance en 2022 sur les feux de forêt, que lorsque ça brûlait en Gironde, ça brûlait pas dans le sud et ça brûlait pas en Corse. Si on avait dû faire face à des feux sur l'ensemble du territoire du sud plus le restant du territoire, on aurait approché la rupture capacitaire humaine, déjà, et matérielle aussi, mais surtout humaine. Et aujourd'hui, c'est...
Approcher ou être déjà dans la rupture?
On aurait probablement été dans la rupture. Donc il faut retravailler la copie. Aujourd'hui, ce dérèglement climatique va forcément nous faire augmenter les formations sur les feux de forêt. Aujourd'hui, dans les territoires, alors si on prend une ligne à la hauteur d'Avignon, on dit que le restant, c'est le nord de la France... Pour la boutade, aujourd'hui, ce secteur-là, seuls les sapeurs-pompiers qui allaient plutôt renforcer les collègues du Sud étaient formés aux feux de forêt. Ça, on a besoin d'évoluer, on a besoin de former maintenant l'ensemble du territoire à la lutte contre les feux d'espace naturel, mais aussi d'augmenter le parc de matériel roulant. Le seul détail qui n'est pas neutre, c'est le délai de fabrication. C'est pour ça qu'à la Fédération, on travaille aussi avec nos industriels pour essayer d'augmenter la production de ce type de véhicules. Le président de la République a annoncé au mois d'octobre une augmentation de la participation de l'État à la hauteur de 150 millions d'euros vers les départements qui financent les services d'incendie en France, de manière à pouvoir augmenter l'état du parc matériel. Sauf qu'aujourd'hui, il nous faut du temps, lorsqu'on commande un camion de pompiers, le fabriquer avec tous les délais aujourd'hui trop longs, si j'ose dire.
Vous les aurez quand, ces camions?
Lorsqu'on passe une commande à l'instant T, il faut presque 2 ans pour avoir la livraison d'un véhicule de sapeurs-pompiers.
Je vais te prendre des oignons.
Des jaunes ou des rouges?
Des jaunes, s'il te plaît. 3.
La Saône-et-Loire est le 6e département le plus étendu de France, donc on a dû rouler encore un peu pour rejoindre la commune de Saint-Bonnet-de-Joux. C'est plutôt au centre du département. Et nous allons rencontrer dans cette caserne rurale le capitaine Yves Journet.
Jean-Pierre, c'est pas encore planté?
Ben non.
Il a été prendre un petit coup de blanc.
Capitaine Yves Journet, si je suis venu vous voir, c'est pas vous faire offense que de dire ça, c'est que vous avez une longue carrière, 37 ans d'engagement. Vous êtes en train de vivre votre dernière année d'engagement, justement, puisqu'il va falloir raccrocher d'ici un an. Qu'est-ce qui a changé dans cette société, dans votre travail, dans votre engagement durant ces années?
Alors, qu'est-ce qui a changé? Ben, la diversité, la complexité des interventions, que ça soit dans tous les domaines, le changement climatique, puisque il est d'actualité, dans tous les domaines, que ça soit le vent, la pluie, la sécheresse, il n'y a plus rien de régulier, quoi. Je veux dire, on tombe toujours dans les extrêmes. Quand il fait du vent, tout tombe par terre. Quand il pleut, ça inonde tout, et les feux, c'est pareil, exactement pareil. Dans les centres ruraux comme ça, quand on a une intervention, on est un petit peu tout seul au monde pendant quelques moments. Il faut prendre des bonnes décisions au bon moment. Ben, les renforts arrivent de loin. Il faut vraiment avoir une bonne analyse de la situation et avoir des réactions immédiates appropriées à l'intervention et aussi au délai d'intervention de nos collègues qui vont venir en renfort.
Est-ce qu'on se forme spécifiquement, par exemple, aux incendies de feux de forêt ?
Ah oui, tout à fait. Il y a une formation spécifique pour les incendies feux de forêt qui a évolué en même temps, puisque avant, il n'y avait pas de feux de forêt, donc très peu de personnel s'est formé aux feux de forêt. Mais maintenant, il va falloir se coller à l'actualité et se former de plus en plus dans ce domaine-là.
L'objectif dans le département, c'est un pompier sur deux ici du département formé d'ici 2030. Il y a les feux de forêt, il y a aussi parfois des averses de grêle absolument incroyables, il y a des crues, il y a beaucoup de rivières dans le coin. Elle se situe où, l'inquiétude majeure, pour vous ?
L'inquiétude majeure, c'est de faire face à tous ces phénomènes, en définitive. C'est la multitude, la diversité. Il faut être formé dans tous les domaines, en définitive. Avoir une réponse opérationnelle dans tous les domaines, en définitive. C'est surtout ça, la difficulté, je pense.
En mars 2024, pour vous, ce sera le moment de raccrocher, comme disent les sportifs de haut niveau. L'âge limite sera atteint.
Comment vous dire, le travail de tout ou chacun, on aimerait arrêter le plus tôt possible. Mais bon... Sapeur-pompier volontaire, c'est une passion, donc l'arrêt n'est pas...
C'est pas un travail ?
Non, c'est pas un travail pour moi, non, c'est pas un travail. Même s'il y a des contraintes, certes, mais c'est pas un travail. Et je vous dis, la plus belle récompense, c'est les gens, c'est le sourire et le regard des gens, quand on leur a apporté du réconfort et le secours. Quand j'étais à mon compte ici, là, je citais souvent cet exemple, des fois, il fallait que je finisse une voiture pour un client, je partais, j'étais appelé. Je grognais parce que la voiture va pas être finie ce soir. Et quand je rentrais, je remettais mon bleu de travail. Mais j'étais heureux parce que j'avais sauvé une maison. J'avais emmené quelqu'un à l'hôpital qui souffrait et ça allait mieux après. Voilà, donc c'était la belle récompense.
Coup de pompe chez les pompiers volontaires, c'était un reportage de Vanessa Descoureaux. Réalisation, Jérôme Chélius, assisté de Martine Messonnier, mixage, Dofar Guéride. Vous pouvez réécouter cette émission dès maintenant sur le site de France Inter.